enseignante en lycée professionnel, mais elle est surtout notre porte-parole régionale pour lutte ouvrière. Alors moi-même, Jodine Roussy, Nathalie Arthaud, candidate populaire à l'action circonscrite. Je vais tout d'abord donner la parole à Elisabeth Faucon, qui va intervenir pour dénoncer la situation qui est faite aux travailleurs dans la région.
Camarades et amis, ici comme partout, le chômage fait des ravages. Il est même au-dessus de la moyenne nationale. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est la conséquence d'une politique délibérée du patronat pour continuer à engranger les profits malgré la crise économique. Aujourd'hui, les patrons se sentent libres de licencier comme ils veulent, de fermer les usines du jour au lendemain, c'est-à-dire de disposer de la vie des travailleurs comme bon leur semble. Vous connaissez tous maintenant cette entreprise de Saint-Junien, Albany, où est fabriquée de la toile technique pour l'industrie textile non tissée, ce sont les termes exacts, une production spécialisée donc, pour laquelle il n'y a pas de problème de débouché. Mais le 23 février dernier, la direction d'Albany France a donné l'ordre à la direction locale de cadenasser les machines et de s'enfuir. C'était leur façon de dire aux 133 travailleurs de Saint-Junien qu'ils avaient décidé de fermer l'usine et de les licencier. Pourtant, quelques semaines avant, quand les travailleurs inquiets leur avaient demandé des comptes sur des rumeurs de fermeture, les allées et venues suspectes de cadres du groupe et le déménagement des stocks dans le Bas-Rhin, la direction avait tout nié sans vergogne. C'est vrai qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai. En 2001, ils ont fermé l'usine d'Angoulême et licencié 150 travailleurs. En 2009, celle de Ribérac, en Dordogne, et ses 88 travailleurs. À Célestat, dans le Bas-Rhin, en 3 ans, la direction a imposé 70 000 heures de chômage partiel. Durant des périodes entières, les travailleurs embauchent le matin sans savoir quand ils vont finir la journée, s'ils vont travailler seulement 6 ou même 4 heures. Albany n'est pas une petite entreprise. Elle appartient à une multinationale, Albany International, leader mondial du feutre, qui depuis les années 2000, au gré de ce qui lui semble le plus rentable, ferme, licencie, restructure en permanence. À Saint-Junien, l'usine est flambant neuve, avec des machines de production ultra-modernes, un des fleurons de l'industrie du textile technique, nous dit-on. Les carnets de commandes sont pleins, et l'an dernier, l'usine a dégagé 4,6 millions de bénéfices. Alors les projets de la direction ne se sont pas passés comme prévu. Les travailleurs d'Albany ont décidé de ne pas se laisser faire et de demander des comptes. Ils ont su rassembler autour d'eux, ils ont reçu le soutien de la population, d'autres travailleurs sont venus manifester à leur côté. L'indignation a été telle que la direction a dû reculer et annoncer une semaine plus tard que la fermeture n'était plus d'actualité. C'est évidemment un immense soulagement pour les 133 salariés, même si tout le monde sait que ce n'est pas totalement gagné et que la direction prépare certainement d'autres mauvais coups. En tout cas, une chose est sûre, les actionnaires d'Albany ont les poches pleines avec leurs dividendes qui ont été multipliés par 10 ces dernières années. Il y a les moyens pour maintenir les emplois à Saint-Junien comme dans tous les autres sites. Se sont relayés devant l'usine Albany pour se plaindre du manque de reconnaissance des efforts, comprenez subventions, qu'ils avaient fait au moment de la construction. nouvelle usine. C'est vrai que, toujours prêts à subventionner les patrons, les dirigeants socialistes du Conseil général n'avaient pas hésité. 1,5 million d'euros en tout pour aménager la voirie près de l'usine, racheter à Albany des anciens bâtiments et mettre à disposition 7500 m² de terrain pour 1 euro symbolique. Cela a toujours été leur politique. Et les larmes de crocodile qu'ils versent sur les patrons voyous comme ceux d'Albany n'y changent rien. En 2011, par un emprunt obligataire auprès des particuliers, la région a récolté plus de 25 millions d'euros pour les redonner au patronat sous forme de prêts à taux zéro ou d'une participation dans le capital. Elle va recommencer fin 2012, cette fois en s'adressant aux banques avec l'objectif d'ajouter 50 à 60 millions d'euros à la cagnotte à distribuer aux patrons. Quand des journalistes se sont étonnés auprès du président de région Jean-Paul Denano de l'élargissement de l'emprunt aux banques, il a répondu « Maintenant, on sait faire ». Les dirigeants socialistes de la région savent si bien faire qu'ils viennent de confier la gestion du fonds de co-investissement alimenté par cet emprunt à une société privée, le groupe Siparex, qui se vante de rechercher la plus haute rentabilité pour les investisseurs. Autant dire que bien d'autres patrons, comme ceux d'Albany, sont assurés de pouvoir profiter des cadeaux de la région et continuer à se comporter en vrais pilleurs des caisses publiques afin de maintenir leurs profits. À Brive, c'est l'entreprise Cronemballage qui va fermer. C'est encore une petite entreprise derrière laquelle se cache un grand groupe, leader européen de l'emballage mécanique, qui possède 130 usines dans le monde. Au prétexte de rationaliser sa production, 40 travailleurs seront mis dehors ou se verront proposer quelques reclassements inacceptables à l'autre bout du pays. Pour Cronemballage, rationaliser, c'est, comme cet été, faire travailler dans une de ses usines les 14 juillet et 15 août pour satisfaire des commandes urgentes. C'est faire des demandes de chômage partiel dès que la production n'est plus à flux tendu. Et souvent, c'est faire attendre les camions à quai pour charger une production qui n'est pas faite, faute de bras. Alors oui, il y a du travail pour tous. La rationalisation pour les travailleurs, c'est d'imposer la répartition du travail entre tous les bras disponibles, et il n'en manque pas. Aujourd'hui, c'est la Limougeoise de Salaison. Le nom a changé, mais pas les méthodes. En 2009, un peu avant le rachat par la holding Turenne-Lafayette, 135 postes de CDI avaient été supprimés, la plupart des salariés concernés se voyant proposer des postes avec de lourdes pertes de salaire. Deux ans après, arguant de 6 millions de pertes pour 2011, 102 intérimaires étaient mis à la porte et 135 postes de CDI supprimés. Les conditions de travail déjà dures ne peuvent qu'empirer pour ceux qui restent. Parce que malgré ces discours sur la baisse des ventes, Monique Piffaut, dirigeante de Turenne-Lafayette, affiche un objectif qui n'est pas de réduire la production, mais de la multiplier par deux. Aujourd'hui, on l'entend pleurer sur les pertes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sa fortune personnelle est passée en 7 ans de 90 à 240 millions d'euros, dont 20 millions pour la seule année 2011. Et il n'y aurait pas de quoi payer les salaires et garder les intérimaires. Qu'on prenne donc sur sa fortune personnelle pour maintenir les emplois et même pour embaucher afin d'améliorer les conditions de travail pour tous. Il n'y a pas de licenciement à l'heure actuelle. Mais au lendemain de la crise de 2008, le groupe a licencié des centaines de travailleurs, imposé du chômage technique ou partiel, fermé 10 usines dans le pays. En même temps, il a étendu ses tentacules dans le monde entier en achetant des dizaines d'usines aux États-Unis, en Turquie, au Brésil, au Royaume-Uni, en Inde. Cela lui a permis d'être de nouveau coté et bien coté au CAC 40. Aujourd'hui, le groupe affiche des bénéfices records de 478 millions d'euros, en hausse de 14% sur l'année dernière. Pour le patron, qui ne s'est pas oublié, c'est 1,4 million de salaire l'an dernier, en augmentation de 44%. Ne s'est pas oublié non plus le PDG de Valeo, qui avec 1,9 million a obtenu une augmentation de 72% quand le groupe annonce 427 millions de bénéfices pour 2011. Ceux qui ne sont jamais oubliés non plus, ce sont les actionnaires. Le groupe Thales, qui possède une entreprise de télécommunications à Brive, a annoncé en décembre dernier un paiement en avance de quelques millions d'euros de dividendes. C'était en quelque sorte pour fêter avec les actionnaires, qui avaient déjà reçu 100 millions en juin dernier, une rentabilité exceptionnelle attendue cette année. Pour les travailleurs de Thales, ce n'est pas la même musique, les départs et mutations ne sont pas remplacés et les intérimaires virés. Et tandis que les actionnaires embauchent des millions, les patrons se moquent des travailleurs quand il s'agit d'augmenter leur salaire. À International Paper, à Saïa, la direction, après avoir annoncé 1,34 milliard de dollars de bénéfices, le double de l'an passé, après s'être félicité d'être bien au-delà de ses attentes, a osé proposer 0,75% d'augmentation. Oui, j'ai bien dit 0,75%, soit pour un travailleur au SMIC, un peu plus de 8 euros par mois. Chez Legrand, Valeo, Thales, c'est le travail des salariés qui crée les richesses. L'argent accumulé doit servir à embaucher les intérimaires et à augmenter les salaires. Pas ceux des PDG, mais ceux des travailleurs, pour permettre à tous de vivre correctement. Entreprise spécialisée dans l'entretien et la maintenance de matériel électronique. 118 travailleurs ont été licenciés en fin d'année au prétexte que l'entreprise croulait sous une dette de plus de 9 millions d'euros. Un fonds d'investissement, Butler Capital Partners, venait de la racheter, en commençant bien sûr par décider d'un plan de licenciement de 1000 salariés sur les 6000 que comptait le groupe. Au cours de leurs débrayages et manifestations, les travailleurs de Brive ont montré qu'ils ne croyaient pas au sort net de la direction sur les comptes de l'entreprise. On licenciait alors que le chiffre d'affaires était en augmentation. Pourquoi ne pas prendre sur les 40 millions de bénéfices qu'a fait le groupe les 5 années précédentes? Comment se fait-il que Jean de la Villardière, président du conseil d'administration, ait démissionné au moment de la mise en liquidation en empochant très peu de temps avant plus d'un million d'euros grâce à un paquet d'actions revendues les quelques jours où celle-ci était remontée. Et les subventions. Pour cette entreprise aussi, la région et le département avaient été généreux en lui faisant au total un cadeau de 740 000 euros. En 2010, l'entreprise faisait la promesse de maintenir l'emploi sur 5 ans quand la municipalité socialiste lui signait un chèque de 120 000 euros pour ses actions en faveur du développement durable, en l'occurrence le recyclage de téléphones portables pour les revendre dans le tiers-monde. Alors qu'évidemment, le seul développement durable poursuivi, c'était celui des profits et pas celui des emplois. Ces temps-ci, Butler Partners fait de nouveau parler de lui dans une autre affaire de rachat. Cette fois-ci, c'est lui qui vend. Il veut se débarrasser du Cernam, racheté en 2007, après que l'arrêt SNCF ait réduit le personnel de 40%. Une bonne affaire, donc. Pendant des années, les profits ont été au rendez-vous. L'activité de transport était rentable, et Butler a littéralement dépecé les plateformes logistiques en vendant les terrains situés près des gares, c'est-à-dire dans des secteurs très convoités par les promoteurs immobiliers. À partir de 2009, la situation se dégrade et suite à des plaintes de concurrents européens, le Cernam est condamné à une amende de 642 millions d'euros pour avoir reçu des aides illégales entre 2001 et 2005, c'est-à-dire au moment de remettre l'entreprise à flot avant de la céder au privé. Autant dire que Butler ne voit plus aucun intérêt à conserver cette entreprise, alors il cherche un repreneur. La seule entreprise qui semble intéressée, c'est Geodis, une filiale de la SNCF. La boucle est bouclée, mais ce sont encore les travailleurs qui en feront les frais, puisque la SNCF a annoncé que la reprise se ferait en licenciant la moitié des effectifs. La cinquantaine de travailleurs des agences de Brive et Limoges sont dans l'angoisse de savoir quel sera leur avenir. La politique de la SNCF n'est pas différente de celle des Albany ou Butler. Elle gère, elle aussi, en cherchant la seule rentabilité financière. L'État applique une politique de rigueur dans tous les domaines et particulièrement dans les services publics. Pour rembourser la dette et continuer à abreuver de milliards d'euros les banques et le grand patronat, l'État applique cette politique de rigueur dans tous les domaines et particulièrement dans tous les secteurs utiles à la collectivité. Au niveau des régions et des départements, il n'en va pas autrement. Récemment, le président du Conseil général de Corrèze, un certain François Hollande, déclarait « Je vis au niveau de la Corrèze ce que j'aurais peut-être à vivre au niveau de l'État ». De quoi parlait-il ? Évidemment, de la politique à mettre en œuvre pour rembourser la dette. Il est prêt, pour obtenir une subvention d'État, à s'engager dans un véritable plan de rigueur pour le département. Il supprime la gratuité des transports scolaires, ce qui va coûter entre 4 et 20 euros par mois aux familles. Il met sous condition de ressources l'attribution d'une aide à la garde d'enfants. Quant au personnel du département, il n'annonce pas directement de suppression de postes, mais il prévient que les remplacements des départs à la retraite seront étudiés au cas par cas. Pour finir, il impose une augmentation de 6,5% sur la taxe foncière. Quant à ne pas subventionner le patronat, il n'en est pas question. Hollande se plaint que l'État ne cesse de se désengager, qu'il ne couvre pas certaines dépenses sociales, ce qui étrangle le budget du département. Mais il dit en même temps que s'il est élu en mai, il mènera la même politique à la tête du nouveau gouvernement, c'est-à-dire un plan de rigueur qui condamnera les départements à réduire encore les aides et services à la population. Imposer une politique de rigueur, on peut être sûr qu'il fera tout pour tenir cette promesse. Quel que soit le gagnant du ciné, la politique d'abandon des services publics va se poursuivre. Dans les hôpitaux de la région comme ailleurs, le manque de personnel est déjà dramatique. C'est une dégradation sans précédent des conditions de travail et pour la population, en particulier dans les zones rurales, c'est un accès aux soins de plus en plus difficile. Du côté des transports, ce n'est pas mieux. Les cheminots sont tous les jours en première ligne pour essayer de faire rouler les trains, malgré la